Vous écoutez France Inter, il est 18h13.
France Inter, le 18-20.
Un grand témoin avec nous jusqu'à 19h, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, pour faire le point sur ce que cette pandémie et ce confinement bouleversent dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie sociale. Il nous dira, lui, qui est tellement attaché au concept de résilience, si le contexte actuel s'y prête, et si oui, à quelles conditions. On parlera notamment de la façon dont on aborde les choses aux différents âges de la vie. On entendra des enfants, mais aussi la directrice d'un EHPAD de Saint-Tropez dans lequel le personnel s'est confiné nuit et jour avec les résidents pendant 2 semaines. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menem et Virginie Rouzic, sous la rédaction en chef d'Olivia Ferrandi, notre rubrique « Confiné mais pas résigné » avec ce soir le carnet des solutions de Philippe Bertrand, juste avant 19h. Sachez que vous pourrez poser vos questions à Boris Cyrulnik, qui se fera un plaisir de vous répondre, à condition bien sûr que vous appeliez le 01 45 24 7000, un numéro que vous pouvez également appeler pour le téléphone sonne, qui sera ensuite consacré à la délicate question des transports à l'aune du déconfinement. Comment se déplacer, comment voyager en toute sécurité, notamment dans les grandes agglomérations. On parlera des bus, des métros, des trains, des voitures, mais aussi du vélo. Alors appelez-nous pour nous dire comment vous vous déplacez si vous travaillez actuellement, comment vous envisagez de le faire après le 11 mai, si vous avez l'intention de changer vos habitudes. On attend vos appels. D'avance, un grand merci à tous, ainsi qu'à nos standardistes et à Henri Bérec et Ronan Mahé qui sont à la console technique.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Boris Cyrulnik.
Bonsoir.
Un grand merci d'être en direct avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes neuropsychiatre, directeur d'enseignement à l'université de Toulon. Vous êtes d'ailleurs chez vous, dans le Var, à la Seyne-sur-Mer, je crois, confiné comme nous tous depuis près de 6 semaines maintenant. Dites-nous tout d'abord comment vous vivez, vous, ce moment si particulier.
Je le vis pas mal parce que j'ai la chance d'avoir une maison assez grande, donc c'est plutôt agréable, je travaille beaucoup, je peux travailler paisiblement, il y a un silence étonnant, donc je le vis pas mal quand je compare à certaines autres personnes.
On parlera, Boris Cyrulnik, tout à l'heure de cette pandémie, de sa gravité, de ce qu'elle représente pour les soignants, pour les malades, pour leurs familles, mais on va s'arrêter d'abord sur ce confinement qui en fait n'est absolument pas naturel. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le confinement, le fait de nous enfermer comme ça, c'est une forme d'agression psychologique ?
Ah ben, c'est une agression neurologique et psychologique. On n'est pas fait pour vivre seul, on est fait parfois pour s'isoler quand on a été trop stimulé par la société. C'est l'isolement, c'est le repos, mais c'est pas le confinement. Le confinement, c'est y a des limites étroites. Confiné, c'est-à-dire qu'on est enfermé. Un prisonnier est enfermé. Or, quand on isole quelqu'un sensoriellement, alors qu'il ne le souhaite pas, il n'en a pas besoin, c'est une restriction de stimulation de son cerveau. Donc, si ça dure trop longtemps, ça altère le cerveau. Et si ça dure un peu moins longtemps, ça provoque des angoisses et ça provoque des décompensations psychologiques.
Il y a clairement des modifications dans notre cerveau.
Oui, puisque le cerveau n'est pas stimulé, on a besoin des autres pour stimuler notre cerveau. Et s'il n'y a pas d'autres, eh ben le cerveau s'éteint et ça se photographie en neuroimagerie maintenant. On photographie à quel point l'autre, la simple présence de l'autre est une stimulation. Mais quand il y a un confinement dans un petit appartement, là il n'y a pas d'isolation. Au contraire, il y a une hyperstimulation et on n'arrive pas à traiter toutes les informations. Donc le rythme naturel est complètement cassé, qu'on soit isolé ou qu'on soit surstimulé parce que l'appartement est trop petit. Dans les deux cas, on n'est pas bien neurologiquement et psychologiquement.
C'est donc normal que cela joue sur nos comportements.
Oui, parce que les comportements, c'est essentiellement l'expression des émotions ou des rituels sociaux qu'on a appris, les rituels de politesse, le tour de parole. Alors ça, c'est d'origine culturelle, mais l'expression des émotions, elle vient du fond de nous-mêmes. Si on est malheureux ou si on ne sait pas contrôler nos émotions, si on n'a pas appris à les contrôler quand on était enfant, eh bien on explose. Et c'est ce qui se passe actuellement, où on voit que les maltraitances familiales, les maltraitances conjugales ont énormément augmenté dès les premiers jours du confinement.
Ce que vous nous dites, c'est que sur le plan psychologique, on n'est pas égaux. C'est pour ça que certains vivent mieux que d'autres ce confinement ?
On n'est pas égaux du tout, nulle part, parce que comme on le disait tout à l'heure, ceux qui ont des grands logements souffrent moins que ceux qui ont des petits logements. Et surtout, avant le confinement, certains parmi nous avaient auparavant acquis des facteurs de protection, c'est-à-dire une famille stable, sécurisante, une bonne maîtrise du langage, un diplôme qui leur permettait d'avoir un métier correct, qui explique un appartement assez grand. Donc cela souffre peu, et quand le confinement sera terminé, ils reprendront un bon développement, c'est la définition de la résilience. Mais à l'opposé, ceux qui ont acquis des facteurs de vulnérabilité avant le confinement, famille maltraitante, maladies répétées, précarité sociale, absence de diplôme, mauvais maniement de la parole, absence de diplôme, donc petit métier, instable, donc petit logement, ceux-là vont souffrir du confinement, et quand le confinement sera levé, eh bien ils auront eu un traumatisme supplémentaire et ils auront du mal à déclencher un processus de résilience.
Quel conseil donneriez-vous, Boris Cyrulnik, à ceux qui commencent à trouver le temps long ?
Ben, je crois que tout le monde trouve le temps long. Certains parmi nous ont trouvé le temps long au bout de quelques jours, mais plus le confinement va durer, plus le pourcentage de gens qui trouvent le temps long va augmenter. Alors on ne peut que s'adapter, parce que si on ne se confine pas, le virus va flamber et on va tous le payer. Et si on se confine, on va ralentir la diffusion du virus, mais on payera quand même, simplement on payera beaucoup moins cher. Or le conseil, c'est essayer de trouver les ressources au fond de soi et autour de soi. Alors les ressources au fond de soi, c'est ceux qui avaient renoncé à un instrument de musique. Eh bien, il paraît que les cours par musique, par Skype, ont beaucoup augmenté. Se remettre à la guitare, ceux qui avaient le plaisir de la lecture, qui ne pouvaient plus lire parce qu'ils travaillaient trop et trop vite, ils vont redécouvrir le plaisir de la lecture. Ceux qui sont capables de se faire un programme d'action dès le matin. Je fais une heure de culture physique, je lis une heure, j'écoute de la musique, je téléphone à mes amis. Ceux-là vont se faire un programme d'action et supporteront mieux le confinement. À l'opposé, ceux qui sont seuls ou surstimulés, surpeuplés, ceux qui n'ont pas acquis ces ressources internes auront du mal à se faire un programme d'action et ils seront de plus en plus mal.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on avait tendance à se plaindre souvent qu'on manquait de temps, et là, on en aurait presque trop, en fait. Ça change notre rapport au temps, cette histoire.
Mais c'est exactement ça. On a des rythmes. Le rythme fait partie du vivant. Il y a le jour, la nuit, le flux, le reflux, le cœur qui se contracte et qui se décontracte, le plaisir de parler suivi du plaisir de se taire parce qu'on a trop parlé. Donc le rythme fait partie du vivant. Les plantes même s'ouvrent, se referment, donc les animaux dorment. Donc tout le vivant se caractérise par le rythme. Or là, le rythme est déséquilibré par le confinement. Et il y avait eu, dans les années 60, une expérience qui avait été faite, autant je me rappelle, par Antoine Speer, qui était un spéléologue, qui s'était isolé dans des grottes profondes de façon à se priver du rythme du jour. Et au bout de quelques jours, très rapidement, son rythme s'était désynchronisé, c'est-à-dire qu'il avait un rythme de 25 ou 26 heures par jour au lieu de 24 heures. Et quand on isole des gens très longtemps, comme ça a été fait d'abord à Toulon, dans des cuves à silence, ou au Vietnam, en guise de torture, quand on isole les gens trop longtemps, au bout d'un certain temps, on finit tous par avoir des angoisses et parfois même des hallucinations. Chacun, plus ou moins rapidement, selon les facteurs de vulnérabilité ou les facteurs de protection qu'on avait acquis avant, mais si ça dure longtemps, on y passe tous.
Alors, on ne vit pas, évidemment, le confinement de la même façon aux différents âges de la vie. Là, je m'adresse maintenant à celui qui a été chargé par Emmanuel Macron de présider la commission des 1000 premiers jours, chargé de réfléchir aux trois premières années de vie des tout-petits. Ceux que nous allons entendre, Boris Cyrulnik, sont un petit peu plus grands, puisque Camille, Gaspard, Clémentine et Adélia, que nous allons entendre maintenant, ont 9 ans et 11 ans. Ils se sont confiés à Sébastien Baer. Certains commencent à trouver le temps long, surtout quand il faut renoncer aux vacances scolaires.
Mon petit frère et moi, on est un peu tristes parce que nous ne pouvons plus aller à Carnac. On devient fou à cause du confinement. Pour pas m'inquiéter, je me dis que c'est une petite maladie. Et puis après, j'essaye de pas trop y penser pour pas être m'inquiéter.
C'est un peu bizarre. Je vois mes copains, mais sur WhatsApp, voilà, on parle de ce qui nous arrive, si on s'ennuie. C'est pas pareil, quoi.
Coucou Adélia.
Coucou Clémentine.
Tu fais quoi, toi, de tes journées?
On fait du badminton, on fait de la peinture, beaucoup de peinture dans la serre.
Nous, on fait de la cuisine. On a fait des cookies, on a fait des petits pots avec des lentilles dedans, ça, quand ça pousse, ça fait des cheveux. Et on a fait du pain.
Cool.
Sauf qu'au début, on a oublié de mettre le sel. Tu préfères l'école ou la maison?
Je préfère quand même l'école, parce que toi et Roman, vous manquez beaucoup.
Boris Cyrulnik, les enfants s'adaptent-ils mieux que les adultes?
Ils s'adaptent mieux, ils sont faciles à blesser, mais ils sont faciles à réparer, parce que c'est un âge où le bouillonnement des neurones est intense et où une blessure est vite sécurisée. Donc si les enfants ont des débuts de troubles parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils ont envie de vivre, ce qui est bon signe, c'est désagréable pour les parents parce qu'ils tiennent pas en place, c'est un âge où on a envie de courir, eh bien ils ont déjà compris qu'il y a un rythme à respecter et que ces enfants-là préfèrent l'école parce qu'à l'école, il y a un rythme, on part de chez soi, il y a une aventure, il y a un petit stress, on apprend des choses et puis ensuite on rentre à la maison avec plaisir. Or là, ils sont à la maison et le plaisir n'y est plus puisqu'ils sont toujours à la maison. Et là, ils redécouvrent le plaisir d'aller à l'école puisque là, ils vont rencontrer des copains. Puis s'ils vont trop à l'école, ils retrouveront le plaisir de rentrer à la maison. Donc, ils ont déjà compris qu'il faut respecter un rythme du jour, de la nuit, du travail et du repos.
Vous pensez qu'une expérience pareille laissera des traces chez les enfants de cette génération qui sont en train de vivre quelque chose de tout à fait exceptionnel?
Alors, je n'aurais pas employé le mot trace parce qu'on emploie le mot trace en neurologie pour dire qu'il y a un circuit qui se met dans le cerveau. Les enfants qui auront des traces sont les enfants qui auront été maltraités pendant l'isolement ou qui auront été isolés trop longtemps. Alors ceux-là garderont des traces cérébrales. Mais la mémoire, c'est autre chose. La mémoire, surtout le souvenir conscient, c'est autre chose. Et ça, le souvenir conscient dépend des discours collectifs. Si on ne parle pas de cet événement, beaucoup d'entre eux vont l'oublier. Mais si on en parle, ce qu'on va faire, la preuve, c'est qu'on est en train déjà de le faire. Si on en parle, on ne peut pas ne pas en parler, parce qu'après le confinement, il faudra réfléchir à la manière de se remettre à vivre. Et là, ils vont mettre en mémoire ce qu'on aura dit du confinement. Si on a présenté le confinement avec comme une angoisse terrifiante, ils garderont dans la mémoire une angoisse terrifiante. Si on a dit du coup de ce confinement, c'est rien du tout, ils vont l'oublier. Donc la seule solution, c'est de leur dire il y a un danger, mais on sait comment faire pour le surmonter. Il faut respecter les gestes barrières, il faut se faire un programme. Et dans ce cas-là, les enfants surmonteront l'épreuve, n'auront pas de traces cérébrales, mais ils auront une mémoire collective. Et plus tard, on leur présentera ça peut-être comme un triomphe. On s'est bien amusé. Tu te rappelles cette époque, comme c'était amusant, comme c'était difficile. Et même si c'est difficile, ils en garderont un bon souvenir.
Et oui, ça fera de sacrés souvenirs. On va voir maintenant ce qui se passe à l'autre bout des âges de la vie. On sait que les résidents des EHPAD n'avaient plus droit à aucune visite depuis le début du confinement. Ils peuvent à nouveau recevoir de la famille ou des amis depuis 7 semaines. Évidemment, il n'est pas question de se faire la bise, mais c'est mieux que rien, surtout quand c'est le jour de son anniversaire. Guy vient de fêter ses 86 ans à l'EHPAD municipal de la Grande Terre à Charleville-Mézières. Il a particulièrement apprécié la visite de ses enfants. Alexandre Blanc.
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants, c'était en visio ou par téléphone, car les visites sont limitées à deux personnes pendant 20 minutes.
On va au moins passer derrière la porte, non? Tu crois qu'on reste
là? Non, normalement, on reste derrière.
Quel largement plus de promettre, alors. Hein.
Masque au visage, Corinne et Thierry restent sur le trottoir, derrière le grillage et une large haie de végétaux.
Bonjour, papa.
Sur le parking, Guy s'installe dans un espace barriéré à l'ombre d'un chalet en bois.
Papa, dis donc, tu parles d'anniversaire?
Joyeux anniversaire.
Oh, il y a fait un petit gâteau.
Les enfants ont fait livrer une forêt noire individuelle et ont posté le courrier à l'avance. Les cadeaux de dernière minute apportés sur place resteront dans un sas 24 heures avant d'être désinfectés et distribués.
Ben, assez curieux, assez original. Ben, on est clôturé. Mais enfin, je ne m'attendais pas du tout à avoir tant d'honneur.
C'est vrai que ça fait une drôle de sensation d'être derrière le grillage. J'ai tous les barreaux sur les photos.
Ça fait un peu prison quand même, mais bon, en même temps, on ne peut pas faire autrement. Hein. Si on laisse rentrer un virus là, c'est une hécatombe.
Place au prochain rendez-vous. Hormis les anniversaires, sont servis en premier les résidents qui recevaient des visites quotidiennes et que le confinement a davantage perturbé que les autres.
Voilà pour ce reportage à Charleville-Mézières. Une réaction peut-être, Boris Cyrulnik, à ce qu'on vient d'entendre?
Alors, je pense que le gouvernement a pris les bonnes décisions parce que à l'époque où il avait dit isolement sensoriel total, c'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi très agressif pour les personnes âgées. Les personnes âgées, quand on les isole, n'ont personne pour qui vivre, pour qui manger, pour qui boire. Donc ils s'isolent, ils ne marchent plus, ils ne boivent plus, ils ne mangent plus, ils s'engourdissent et ils meurent de déshydratation. On appelle ça le syndrome de glissement. Et on dit c'est une mort naturelle. C'est pas une mort naturelle, c'est une mort par carence affective. Alors on peut compenser cette carence affective par un Skype, si quelqu'un peut le faire. C'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a tout le reste de la communication sensorielle, entendre, voir la famille, voir les enfants courir ou faire des bêtises. Et ça fait des stimulations en plus. Et c'est beaucoup mieux que le Skype, et c'est mieux que rien. C'est pas aussi bien qu'une vraie visite, mais c'est déjà ça. Donc ça, en tout cas, ça empêche le syndrome de glissement. Donc ces petits rituels, même derrière une haie, sont excellents.
Alors je voudrais vous faire écouter maintenant une autre histoire d'EHPAD. On va aller à Saint-Tropez, c'est pas très loin de chez vous, Boris Cyrulnik, dans un EHPAD où une partie du personnel de l'EHPAD Les Platanes a décidé de se confiner avec les 62 résidents de l'établissement pendant deux semaines. Les infirmières, les aides-soignantes, les animatrices, les femmes de ménage ne sont pas sorties de l'EHPAD. Elles ont dormi sur place, ce qui a permis d'éviter toute contamination. La directrice a raconté à Olivia Ferrandi cette quarantaine si particulière voulue par le personnel.
En fait, ce sont les aides-soignantes surtout qui se sont rendues compte qu'on ne pouvait pas du tout laisser les résidents en chambre confinée. Donc la meilleure solution en fait, qu'elles ont trouvée avec toute l'équipe, hein, l'animatrice, les infirmières, l'infirmière cadre et moi-même, c'était de se confiner avec eux dans notre établissement. Je ne pensais pas qu'on serait autant de volontaires. On peut être qu'admirative, vraiment. Vraiment, elle ferait tout pour les résidents. Après, bon, il ne faut pas que ce soit une empathie non plus trop exagérée, mais l'idée était pour nous normale, en fait.
Alors, comment s'est organisée cette vie au quotidien?
Alors, le premier jour, donc, quand on est arrivé, chacune d'entre elles avait un matelas. Il y avait tous les bagages qui étaient entassés dans la salle d'animation. On a fait un espèce de dortoir à 6 ou 7 lits dans la plus grande salle. Ensuite, on a investi un peu tous les bureaux qui étaient au rez-de-chaussée. On a organisé également dans la salle du conseil d'administration un petit déjeuner, voilà, pour que tous les matins puissent se réunir. Et dans la salle de restaurant, tous les soirs à 20h30, on allait dîner ensemble. Donc on est arrivé comme en colonie, en fait. Après, les filles, entre elles, elles s'entendent déjà tellement bien que c'est vraiment un esprit vacances. Vraiment, il n'y a eu aucun heurt, ça s'est très bien passé. Je sais même pas comment on a pu faire que ça se passe aussi bien.
Les résidents, vos pensionnaires, comment ils ont réagi?
Ils étaient vraiment, on peut dire, admiratifs. On les a jamais vus comme ça, en fait, à nous remercier, à jouer le soir, par exemple, au Rumi Cube ensemble. Enfin, ils étaient absolument ravis. Le soir, on passait leur dire bonsoir. On les servait à table, par exemple. Normalement, c'est la société de restauration qui le fait. Là, c'était les infirmières, l'infirmière cadre, etc. Et moi-même, je veux dire, j'étais ravie. Ça a renforcé énormément de liens entre personnel, famille, résidents. On a eu des dizaines de dons de nourriture, Pâques, puisqu'on a passé Pâques là-bas ensemble. On a eu tellement de chocolat, je crois qu'on a pris au moins toutes quelques kilos. Faire Pâques avec les résidents plutôt qu'avec sa famille, et eux, pareil, hein. Je veux dire, ça a été assez incroyable. L'animatrice et certaines soignantes ont organisé une chasse aux œufs, comme nous, quoi, quand on était enfants. C'était incroyable, c'était un super moment, vraiment d'émotion. Et puis les remerciements, et à la fin également, le tout dernier soir, à 18h, certains résidents ont organisé une petite surprise, et nous ont lu un hommage. Voilà, ils ont lu vraiment un hommage, je ne sais même pas comment dire, on en était toutes les larmes aux yeux. Voilà, ils nous ont applaudi à 18h, vraiment ça a été vraiment très fort pour nous.
Il y a des mots dont vous vous souvenez ?
Les mots, c'est « nous ne vous remercierons jamais assez ». Nous sommes très reconnaissants et merci pour votre bienveillance et d'avoir laissé votre famille pour nous. Ça, c'est des mots forts.
Oui, parce que ça ne devait pas être facile non plus pour ces infirmières, ces animatrices, ces aides-soignantes de laisser leur famille.
Alors en fait, il y a toujours un moment un peu de stupeur. Nous, on l'a vraiment pris comme ça. C'est-à-dire quand le lundi, on a annoncé qu'on partait en confinement, alors qu'elles étaient toutes d'accord avec l'équipe de volontaires qui était déjà constituée depuis quelques semaines, il y a eu un petit blanc. Enfin, on était pas vraiment sûr, on n'y croyait pas vraiment en fait, hein, parce que tant qu'on le dit, c'est pas la réalité. Mais et quand on y a été, on a tout oublié, voilà. Toutes les peurs, les doutes, de se dire est-ce qu'on va y arriver pendant 15 jours, 100 jours de repos, en fait, on y est arrivé, quoi.
Les maris, les conjoints, les enfants, ils ont dit quoi?
Alors, je pense que la plupart ont dit mais allez-y. Parce que quand on est mari ou compagnon de soignants ou de personnel qui travaille dans les établissements médico-sociaux et sanitaires, on peut être qu'avec la personne. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas qui ont dit non, mais tu es folle, tu peux pas faire ça. Enfin, il y en a peut-être après, hein, je ne vis pas dans les familles, mais je pense quand même que les compagnons disent, les maris disent, si c'est ce que tu sens, fais-le, quoi. C'est plus qu'un métier ce qu'on fait, c'est au-delà du professionnel.
Et la fin de cette aventure-là, comment a-t-elle été vécue par les résidents?
Alors, par les résidents, comme pour les personnels, je pense que ça a été un choc, le retour à la normale. Vraiment, ça a été un petit peu difficile de réintégrer le roulement normal. Enfin, pour les résidents aussi, ils avaient pris quelques petites habitudes. C'est vrai qu'on passait nettement plus souvent parce qu'on était plus nombreuses par jour. On était quand même 17 par jour, alors que bon, en général, c'est pas autant. Et on passait plus de moments personnels avec eux. Donc, ils ont été un petit peu tristes de nous voir partir, mais bon. La vie reprend, hein. Et tout se passe bien, mais ils nous disent quand même, mais vous nous manquez le soir, voilà.
Depuis, vous n'avez pas eu de cas de contamination?
Non, on a la chance que tous les résidents soient testés négatifs, les salariés aussi, donc pour le moment, tout va bien.
Les retrouvailles avec les familles des résidents, cette semaine, est-ce qu'elles ont pu s'organiser dans votre EHPAD?
Oui, tout à fait. C'est vrai que dès dimanche soir, quand on est toutes rentrées donc chez nous, on a vu cette annonce à la télé. On était assez surprises. Le mardi, en fait, puisque le lundi, on s'est toutes reposées. Et le mardi, on a établi les protocoles. Et dès vendredi, on a pu organiser de nouveau des visites. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir très beau temps en ce moment. Donc, ils peuvent être dans le jardin. On leur met une grande table à peu près d'1,52 m. Après, on connaît toutes les familles. Donc, je sais qu'il n'y a aucun souci. Ils comprennent tout à fait.
Et pour les résidents, comment ils ont vécu ces retrouvailles?
Alors, très émus, évidemment. Et quand même, avec une demande particulière. C'est quand est-ce que tu reviens? Toujours pareil, après quand on doit leur dire malheureusement que c'est qu'une fois tous les 15 jours, parce qu'il y a quand même 62 résidents, voilà, sur 15 jours, ça fait quand même beaucoup de visites. C'est toujours un peu triste de leur dire. Mais ça s'est très bien passé, ils étaient tellement contents de revoir leur famille, ça a été vraiment très émouvant aussi. Hein.
Voilà, c'était donc Laura Bedu, directrice de l'EHPAD Les Platanes à Saint-Tropez, interrogée par Olivia Ferrandi. Boris Cyrulnik, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience?
C'est une expérience magnifique, chapeau, hyper chapeau même. Alors c'est bien d'ailleurs, parce que je suis convaincu même que la plupart des pensionnaires ont été stimulés par cette présence, et que les infirmières, les aides-soignantes, tous les gens qui ont participé à cette aventure, tout le reste de leur vie resteront fiers de ce qu'elles ont fait. Alors ça, c'est un facteur de résilience, parce que dès l'instant où on gagne l'estime de soi, elles auront l'estime d'elles-mêmes, elles l'ont gagnée. Elles auront l'estime des autres, de leur famille et des pensionnaires, des résidents. C'est-à-dire que là, je pense que c'est une expérience d'un extrême courage. Mais dans les situations de catastrophe, il y a toujours des gens très courageux. On parle trop de ceux qui profitent des catastrophes pour voler, pour escroquer, parce que ça existe aussi. Mais on met la lumière sur eux. Alors c'est bien de mettre la lumière sur des gens comme les gens de cette EHPAD qui traînent sur eux, connaissent une belle aventure, font un très beau cadeau aux résidents et le garderont ce souvenir toute leur vie.
Qu'est-ce qui fait, Boris Cyrulnik, que dans des cas de crise comme ce qu'on vit actuellement, certains font preuve d'altruisme et d'autres plutôt d'égoïsme?
C'est le cas dans toutes les catastrophes. Pendant les guerres, l'immense majorité des gens voudraient vivre heureux, et quand il y a un problème, l'immense majorité des gens vont au secours des blessés ou des affamés ou des prisonniers. Mais il y a toujours une minorité de gens, c'est celle dont on parle, qui profitent de la catastrophe pour exploiter les malheureux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 40 millions d'habitants en France. Il y a eu 200 000 résistants et 600 000 collaborateurs. 39 millions d'habitants sur 40 millions d'habitants ont voulu vivre en paix et ont fait des efforts pour protéger les faibles. Ils ont continué un magnifique élan de solidarité. Mais il y en a 600 000 qui ont profité de cette aventure pour s'en mettre plein les poches ou pour réaliser des fantasmes de persécution. Et c'est vrai pour la guerre de 40, mais c'est vrai aussi pour les petits événements de la vie quotidienne. Quand il y a un événement, il y a eu une année, je ne me rappelle plus quelle année, où l'autoroute Lyon-Marseille a été bloquée par la neige. On parlait du naufragé de l'autoroute. Instantanément, beaucoup de gens sont arrivés avec des pelles, avec des vêtements pour aider les gens qui étaient bloqués sur la neige. Et instantanément, en même temps, sont arrivés des gens qui vendaient à un prix exorbitant les bouteilles d'eau. C'est-à-dire que, en même temps, le marché noir a démarré instantanément, mais par bonheur, l'immense majorité des gens a volé au secours des naufragés de l'autoroute.
Boris Cyrulnik, pour en revenir à cette maladie, le Covid-19, c'est une maladie angoissante. Hein, elle nous rappelle qu'on est vulnérable, parce que c'est une maladie, on l'a vu, qui pouvait emporter des gens même bien portants en quelques jours, en quelques heures, parfois même, et souvent, il n'a pas été possible de dire adieu à ceux qui sont décédés. Ça laissera un traumatisme chez les survivants de ces familles?
Ça laissera à la fois... peut-être pas un traumatisme, mais un problème à résoudre. On a cru pendant 70 ans que ce problème appartenait au passé. On a cru que le choléra, les pestes, tout ça, c'était l'histoire de France, c'était parce qu'il n'y avait pas d'hygiène, c'était parce que les gens étaient pauvres et parce qu'il n'y avait pas de science. Or, on découvre que c'est faux. On découvre que probablement cette épidémie a été provoquée par l'hypertechnologie. La technologie de l'élevage, qui a concentré les animaux, ce qui augmente le transport du foin et ce qui augmente l'effet de serre, la technologie du transport des aliments, de l'aviation, qui transporte le virus, parce que le virus se déplace pas. C'est nous qui le transportons. C'est pour ça que le confinement est une protection. Et je pense que pendant 70 ans, on est sûrement dans l'histoire de France, c'est la première fois qu'il y a presque trois générations sans guerre et sans épidémie majeure. Il y a eu le sida, bien sûr, qui a été une épidémie importante, qu'on a plutôt pas mal contrôlée, même si on l'a payé très cher. Mais je pense qu'on a oublié qu'on appartenait au monde vivant. On partage la planète avec les animaux. Si on enferme les animaux, si on fait des élevages en surnombre, en surpopulation, on crée les conditions où les excréments des animaux fabriquent des virus. Et ensuite, les avions et les voitures font le reste. Le transport fait le reste. On a oublié qu'on appartient au monde vivant, et si on massacre le monde vivant, eh bien, on partira avec lui. Et ça, c'est une leçon, je pense que les scientifiques et les politiciens devront tenir compte de ça. C'est une banalité ce que je viens de dire, mais on l'avait oublié, on pensait qu'on était au-dessus des lois, de ce qu'on appelle les lois de la nature. Eh bien non, on n'est pas au-dessus, on est dans la nature, et la technologie la bouleverse tellement que on crée des épidémies et on peut les contrôler, j'espère, mais si on les contrôle pas, ou si on contrôle pas la récidive, l'an prochain, il y aura une autre épidémie de virus.
Alors cette crise, en tout cas, elle va nous amener à revoir sans doute notre façon de vivre en société, notre façon de faire société. On va en parler, Boris Cyrulnik, juste après Louis Chédid, « Tout ce qu'on veut dans la vie ».
Un baiser, rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Chédid, tout ce qu'on veut dans la vie, un disque sélectionné pour nous par Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si vous avez écouté les paroles de cette chanson, Boris Cyrulnik. Corps à corps, bouche à bouche, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Là, avec le confinement, c'est un peu compliqué.
Non, il y a des gens qui redécouvrent l'importance de l'affectivité. La nécessité d'apprendre à parler, parce que pendant un moment, on était tellement prisonniers des écrans, les enfants surtout, qu'il y avait des quartiers où il y avait des retards de langage, parce que les écrans fascinaient les enfants, qui passaient du temps, tuaient le temps, et n'apprenaient pas à parler. Et avec le confinement, la présence des parents, je parle des familles qui affrontent le problème, le confinement, la présence des parents, on voit qu'ils inventent des jeux, qu'ils inventent des rituels, qu'on voit des modifications d'événements, et ça, on découvre l'importance de l'affectivité. Mais ça, c'est pour les familles qui surmonteront le confinement. Bien sûr, il y a d'autres familles qui sont souffrées avant, qui vont continuer à souffrir encore plus pendant le confinement, et là, ça va être un problème difficile à résoudre, parce que là, il y a déjà des décompensations anxieuses, et parfois même des décompensations psychotiques, comme le signalent les jeunes confrères. Mais ça, c'est dû au fait que ces gens, vu vulnérables sont isolés, alors que les gens qui avaient acquis des facteurs de protection s'organisent pour affronter le problème, et les enfants découvrent l'importance, et les adultes découvrent l'importance de l'affectivité, et beaucoup de couples se remet à bien fonctionner parce que chacun redevient attentif à l'autre, alors qu'avant le confinement, chacun courait de son côté et pensait que la présence de l'autre l'entravait. Donc c'est pas une cause provoque un effet, c'est une convergence de causes qu'il faut analyser pour savoir si ça améliore ou si ça détruit.
On a un appel pour vous, Boris Cyrulnik, c'est Dominique qui est au téléphone. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir tout le monde.
D'où nous appelez-vous ?
Eh bien, je vous appelle de Meudon.
Et vous souhaitiez interpeller Boris Cyrulnik ?
Ben, interpeller, j'aime pas tellement ce terme,
non,
mais bon, il est exact par rapport. Bon. Alors, simplement, moi je voudrais demander à Boris Cyrulnik par quel chemin, comment nos dirigeants doivent nous faire passer de la résilience individuelle et familiale, bien entendu, et qui est absolument nécessaire, à une résilience collective partagée vers un destin commun. Et je pense qu'il existe également un autre concept qui pourrait être complémentaire de la résilience, c'est la compliance. La compliance, c'est un terme qui peu à peu repris dans la langue française, notamment dans le corps médical. C'est jouer le jeu avec participer à sa guérison. D'ailleurs, c'est un vieux terme français qui a été repris en anglais, to comply with. Et je pense qu'il serait parfaitement complémentaire à la résilience.
Eh ben, on va demander à Boris Cyrulnik ce qu'il en pense, Boris Cyrulnik.
Oui, merci. Je croyais que compliance, ça venait de l'anglais, mais vous me dites que ça vient de la langue française. Je veux bien. Alors, effectivement, c'est pas exclusif. La résilience, c'est la reprise. C'est un processus qui permet de reprendre un bon développement après une période traumatique. Donc la compliance est certainement un facteur de résilience, comme la parole, l'aptitude à la parole, l'entraînement à la parole est aussi un précieux facteur de résilience, comme le dessin pour les enfants, comme les enfants qui inventent de nouveaux rituels, qui partagent avec papa, tout ça, c'est des facteurs de résilience. Alors il y a différents facteurs, et on peut analyser la résilience biologique, on le fera pas, parce que c'est pas le moment, mais on sait qu'un cerveau, je le disais tout à l'heure, un cerveau isolé cesse d'être stimulé, donc là il y a des cerveaux trop stimulés, mais il y a aussi la résilience affective, et on constate effectivement que dès l'instant où on vit dans un groupe, on est obligé d'accepter si vous voulez, on peut employer le mot compliance, de se soumettre aux besoins des autres. Et le fait de vivre ensemble exige une part de renoncement à son épanouissement personnel. Et alors, à ce moment-là, le groupe fonctionne bien. Mais le danger, peut-être, là c'est après le confinement, c'est que quand il y a des situations de catastrophe, des situations de chaos comme celui qu'on commence à connaître et qu'on connaîtra encore plus, le danger, c'est qu'arrive un sauveur. Quelqu'un qui dit « moi j'ai la solution, votez pour moi, je sais ce qu'il faut faire ». Et c'est ce que font tous les dictateurs. Et on voit que très souvent, après une période de chaos social, le bon peuple vote et donne le pouvoir à un dictateur, comme on le voit aujourd'hui sur la planète, où un très grand nombre de dictateurs ont été démocratiquement élus. Parce que le pays était en difficulté, il s'est présenté en sauveur et on l'a cru, on a voté pour lui. Généralement, c'est une escroquerie politique, ça tient pas longtemps, mais on paye avant. Donc je pense que l'autre solution, c'est presque ce que vous avez dit, c'est qu'il faut attacher de l'importance à l'être ensemble, au groupe. Et à ce moment-là, on fait des efforts, on renonce à certaines choses pour vivre en groupe, et là on peut déclencher un facteur de résilience. Par exemple, beaucoup de travaux ont été faits en Europe et surtout en Amérique du Sud, où des Indiens ont été chassés de chez eux, de leur territoire, par un dictateur au Guatemala. Et on voit que les Indiens qui ont surmonté l'épreuve et qui, lorsque le dictateur s'est effondré, les Indiens sont rentrés chez eux, ils avaient supporté l'exil, la pauvreté, et ils ont reconstruit une ville qu'ils ont appelée Esperanza, l'espérance, l'espoir. Alors que ceux qui n'avaient pas fait de groupe, qui n'avaient pas accepté de faire un effort pour les autres, ceux-là étaient seuls de leur côté en train d'entrer en compétition, en rivalité avec le voisin. Et là, dans cette population-là, ces Indiens ont fourni un très grand nombre de syndrome psychotraumatique, dont beaucoup ont eu du mal à se remettre. C'est-à-dire qu'on voit comment la solidarité est un précieux facteur de résilience.
Ça veut dire en tout cas qu'il y a un sacré défi qui nous attend pour la suite. Hein. On entend beaucoup parler du monde d'après qui serait différent, mais à vous écouter, Boris Cyrulnik, il va falloir faire très attention à ce que peut être ce monde d'après.
Ah ben ça, c'est un enjeu énorme. On aura le choix entre vivre mieux ou subir une dictature, que ce soit la dictature politique, la dictature religieuse ou la dictature de l'argent, de l'hyperconsommation. Tout ça, c'est des dictatures. Mais si il y aura des débats philosophiques, des débats de société passionnants, j'espère pas trop passionnés, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus résoudre le problème, mais il y aura des débats nécessaires, en tout cas, comme on le voit après chaque catastrophe. Que ce soit une catastrophe culturelle ou une catastrophe naturelle, il y a toujours une évolution, un changement de culture ensuite. Parfois, c'est bénéfique. Après la peste de 1348 qui est partie de Marseille, exactement provoquée par ce que je viens de vous proposer, c'est-à-dire hyperconsommation de la soie qui venait de Chine, et les commerçants ont voulu gagner tellement de l'argent qu'ils n'ont pas respecté la quarantaine à Marseille. Donc il y avait dans les ballots de soie et des ballots de coton, il y avait le bacille de la peste, et ce bacille a tué en 2 ans un Européen sur 2. Donc c'est une catastrophe immense. Mais avant 1348, les aristocrates possédaient la terre et les châteaux, et quand ils vendaient la terre ou leur château, ou quand ils le cédaient après une bataille, ils vendaient les serfs, les hommes qui travaillaient cette terre. Or, après la peste de 1348, un Européen sur 2 était mort. Ce qui fait que les hommes, pour les faire travailler, pour les faire retourner à la terre, eh bien, il fallait leur parler gentiment. Et il fallait même les encourager. Le servage a disparu en 2 ans. Donc ça, c'est un effet bénéfique. Mais il y a des effets maléfiques aussi, parce que l'Allemagne avait été humiliée en 1918 par le traité de Versailles, qui fait que tout l'argent de l'Allemagne partait en France. Donc les Allemands ne pouvaient pas se reconstruire. Est arrivé un sauveur, Hitler, qui a dit « Votez pour moi ». Et en 1933, il a été légalement élu, ce qui a provoqué une catastrophe mondiale. Donc, il va y avoir un enjeu énorme. On aura le choix entre vivre solidairement d'une autre manière. Il faudra donner la parole à beaucoup de gens. Notamment, ce qu'on découvre maintenant, c'est l'importance des petits métiers qu'on avait un peu méprisés et oubliés. Et on voit, par exemple, les aides-soignantes, les infirmières, les facteurs, les éboueurs, eh bien, ils sont plus importants que ce qu'on croyait. Donc, il faudra en tenir compte. Là, les politiciens auront sûrement des choses à décider. Et si on ne sait pas, si on ne réfléchit pas à une nouvelle manière de vivre ensemble, il y aura des candidats dictateurs, et j'espère qu'on ne votera pas pour eux.
Effectivement. Et alors, on va finir, si vous le voulez bien, Boris Cyrulnik, sur une note positive, parce que vous le dites, on se rend compte qu'il y a des métiers très importants, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des initiatives solidaires, qu'on peut faire des tas de choses, justement, pour les autres. C'est le carnet des solutions de Philippe Bertrand, parce que Philippe Bertrand, il est là le dimanche aussi.
Bonjour Claire, je vous conduis aujourd'hui à Marseille, ville que j'aime pour y avoir vécu quelques années, mais ça c'est une note personnelle, et pour ses innombrables quartiers aussi différents les uns que les autres. Parmi eux, les très impopulaires quartiers dits populaires. Populaires riment souvent avec galère. Pourtant, c'est au cœur de ces quartiers qu'on construit ensemble des projets, et c'est le cas avec Fatima Mostefaoui. Fatima est présidente de l'association avec nous, et porte-parole des femmes de ces quartiers. Fatima, bonjour.
Bonjour.
Vous avez tenu, il y a quelques jours, avec d'autres personnes, une tribune. Vous vouliez faire savoir quoi, au juste ?
C'était un coup de gueule, une fois de plus, pour les petites associations qui sont dans les quartiers, qui travaillent à la solidarité. Et après 2 semaines d'action, on ne reconnaît pas leur travail. Par exemple, nous, on a distribué des ordinateurs, on a fait une action pour partager le Wi-Fi, et on fait le travail des pouvoirs publics, toujours sans rien dire. Mais là, c'est plus possible.
Et partage ton Wi-Fi, donne ton code à tes voisins, a permis à des enfants de suivre l'école à la maison.
Mais bien sûr, dans des quartiers, la fibre, elle s'arrête au trottoir en face. Il y a des gens qui ont Internet, mais avec des petits forfaits. Donc, ça fonctionne pas. Et les ordinateurs tournent toute la journée, quoi, à la maison, tant qu'on a partagé la Wi-Fi. Et c'est la solidarité de palier. C'est la solidarité de voisins, d'immeubles. Et ça a permis à des enfants de continuer à travailler et avoir une bonne connexion.
Fatima, il est dit parfois que le confinement n'était pas bien respecté dans les quartiers populaires. Encore certainement un stéréotype, mais peut-être aussi une réalité. Est-ce que ce confinement est bien respecté à Marseille ?
Oui, le confinement il est respecté et il n'est pas mieux respecté dans le 16e à Paris ou dans le 9e à Marseille. Et on constate que les personnes sont confinées chez elles et elles ont respecté le confinement. Moi, mes voisins, ils ne sont pas tombés comme des mouches.
Vous pensez qu'aujourd'hui, la politique de la ville va prendre conscience et prendre en main les quartiers populaires qui sont très souvent encore marginalisés ?
J'espère que l'épidémie va donner des leçons à tout le monde et de se dire que, oui, dans les quartiers, il y a des gens qui travaillent toute l'année. Cette reconnaissance, il faut qu'on la fasse. Et il ne faut pas qu'on travaille à côté, il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est maintenant, et c'est un tournant dans notre vie, si on n'arrive pas à le prendre, parce que tout le monde a peur des révoltes, tout le monde a peur de tout. Donc aujourd'hui, si la politique de la ville ou le gouvernement ne prend pas en compte les petites associations qui travaillent toute l'année, hein, c'est pour ça qu'on les appelle les fourmis. Si elles ne prennent pas en compte cette situation-là, on a perdu l'avenir et c'est pas possible. C'est maintenant qu'il faut qu'on discute du après de ce qui va se passer. On est obligé de travailler ensemble et on doit travailler ensemble.
Merci Fatima et bon courage à la fourmilière. On a bien entendu votre message. Le site c'est avec-nous.org pour l'adresse de l'association présidée par Fatima. Et merci encore.
Et merci à Philippe Bertrand. Boris Cyrulnik, cette émission se termine. J'aurais bien voulu qu'on parle de votre dernier livre, La nuit j'écrirai des soleils, chez Odile Jacob. On n'a pas eu le temps, ce sera pour une prochaine fois. Merci. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne soirée.
Merci.
Et bon confinement, hein, comme on dit. Après le journal de 19h, on s'intéressera au téléphone sonne à la délicate question des transports à l'heure où le gouvernement planche sur les mesures du futur déconfinement. On attend vos appels là aussi au 01 45 24 7000.